Strava.
Vous avez Strava?
Oui, évidemment. Évidemment. Comme tout coureur qui se respecte, je crois, aujourd'hui. C'est aussi pour suivre nos performances, mais aussi pour les montrer. Donc...
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie, et je dirais même aujourd'hui quel pied, de vous retrouver pour une émission intégralement consacrée à ce mystère. Comment est-il possible que Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, ait couru cette année plus de 427 km, alors même que ses baskets on running ne présentent toujours aucune trace d'usure, et pour cause, elles sont toujours sous blister. Alors, comment expliquer ces chronos incroyables avec des rythmes de 4,50, voire 4,40 au 10 km, alors que même Hugo Clément Sport ne descend pas en dessous de 5, alors qu'il bouffe du tofu et des graines germées pendant que Cyril, lui, boit la béarnaise quasiment à la paille? La réponse est simple. Comme des milliers de sportifs du dimanche, Cyril ne court pas, mais il fait courir quelqu'un à sa place sur l'appli dont tout le monde parle, Strava, une appli qui permet de mesurer ses performances, de se comparer aux autres, mais aussi de rencontrer des gens, car Strava est devenu également une appli de rencontres. Des rencontres évidemment pas aussi frontalement explicites que sur Tinder, où Quentin a l'habitude d'aller droit au but.
Vous parlez de boîte à partouze, Lucette?
Voilà.
Voilà, oui, c'est sûr. Lucette, tu l'aurais pas croisé sur Strava. Quoique, il n'y a pas d'âge pour se mettre à la course à pied, alors zoom sur Strava, comment ça marche, quelles sont aussi les dérives de l'application star des runners. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Cléo Hénin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste sportive et podcasteuse. Vous avez notamment créé le podcast Championne du Monde qui s'intéresse aux femmes dans le sport. Vous êtes aussi l'une des animatrices du podcast Dans la tête d'un coureur qui analyse le running et toute la culture autour de cette activité. Notamment Strava, l'appli donc qui draine des millions de coureurs partout dans le monde. Vous lui consacrez un épisode intitulé Strava, le meilleur ennemi du coureur, point d'interrogation. Vous allez nous expliquer pourquoi. Juste le temps de vous présenter deux figures du sport français. L'un a marqué l'histoire de l'audiovisuel en testant un par un les sports les plus niches des JO.
J'y vais à fond, j'y vais à fond. Vas-y, ça passe.
Ah, c'était pas passé, hein. L'autre...
Mais c'est horrible.
L'autre...
Et dès que je penche dans le virage...
On a encore les stigmates. L'autre est double championne d'Europe de pilates, catégorie pratique occasionnelle, voire nulle.
Je ne sens littéralement plus mes jambes, en fait. Mais c'est quoi ce truc de psychopathe? J'ai envie de crever sous un camion.
Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour à tous, c'était le Dynamo Cycling, ça. C'était
ah oui.
Encore.
Ah oui, ça, tu l'as
un
fait
bel
trois
échec.
Fois.
Ça. Oh, franchement, un échec. Un bel échec, un bel échec.
Ouais, oui, j'ai déménagé entre temps, sachez-le.
Mais c'est
je
pas,
dis bonjour,
c'est
bonjour.
Il y en a partout.
Bonjour.
C'est vrai.
Bonjour à tous.
Et vous, alors Manon, justement, j'allais vous oublier dans votre pièce jointe aujourd'hui au programme.
Eh bien, un artiste qui a décidé de ne pas utiliser Strava pour courir, mais pour dessiner. Franchement, moi qui n'en peux plus de voir les temps des runners du dimanche sur Instagram, ça fait du bien.
Mais vous, est-ce que vous utilisez Strava, Quentin, qui, si ça se trouve, lui aussi réalisé son micro-trottoir par d'autres personnes pendant qu'il roupille jusqu'à 11h, est allé vous poser la question.
Si jamais vous avez un filon, Mathieu, je suis preneur parce que j'ai essayé de sous-traiter la partie enregistrement en cache, évidemment,
oui.
Et ils ont tenu deux jours. Bon, ah. Du coup, je suis allé moi-même sur les quais de Seine enregistrer les coureurs en mode barrière humaine. J'ai arrêté les joggeurs. Quel est votre rapport?
Ça, si tu m'arrêtes pendant que je fais un jogging, je te tue.
Ben non, parce que les gens m'aiment bien. Voilà.
Oui, mais ils vous connaissent pas. Ben, c'est pour ça.
Si, si. Leur réponse avant 16h30 dans ce micro-trottoir,
complètement à la rue,
bien sûr.
Vers 16h30, je ne sais pas vous, mais cette émission sur Strava, la folie du running, ça me fait penser à l'émission qu'on avait faite sur la bigorexie. Je suis retombé sur le quiz, il était top. Je me suis dit que ça serait dommage pour ceux qui n'étaient pas là de passer à côté des dangers qu'on encourt à faire trop de sport. Juste avant 17h, c'est quelqu'un qui n'encourt vraiment aucun danger, GC, qui nous rejoindra. Après 17h, ça y est, hein, vous avez suivi l'actu, la France a reconnu la Palestine à l'ONU. Et maintenant quoi? On en parlera avec l'ancien correspondant du Monde à Jérusalem. Différentes ambiances donc dans cette deuxième heure en vue.
Mais
d'abord,
un petit peu, oui.
On va rester sur Strava, l'appli qui rend fou les passionnés de course. Cléo Hénin, est-ce que vous êtes vous-même déjà utilisatrice de Strava?
Tout à fait. Et pour la petite anecdote, je me suis même inscrite sur l'application avant même de commencer à vraiment courir.
Ça, c'est bizarre comme démarche. Ça fait partie de la... Ça donne envie de courir, d'avoir Strava.
Exactement, en fait. Quand je me suis dit, allez, maintenant, je me donne un objectif, je voulais absolument courir un semi-marathon.
Ouais.
Une des premières choses que j'ai faites, ça a été de m'inscrire sur Strava.
Et en fait, oui, c'est peut-être d'avoir cette appli, ça nous donne de la force pour accomplir l'objectif.
Bah, c'est un petit peu idiot quand on y pense, quand même. Mais je trouve que ça montre bien la puissance de Strava aujourd'hui. C'est que maintenant, quand on pense course à pied, tout de suite, la première chose qu'on fait, c'est installer Strava, en fait.
Moi, j'ai une amie qui court et qui me dit que si elle ne met pas sur Strava ces trucs, elle a l'impression de ne pas avoir couru. C'est-à-dire que même si elle fait 10 km, si ce n'est pas enregistré quelque part...
Mais si ce n'est pas sur Strava, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. C'est comme si on n'avait pas couru.
Mais vous ne l'avez pas, Mathieu?
Non, moi, je suis sur une autre application.
peut-être moins. Vous savez, moi, je suis complètement asbine, donc j'ai une application.
Partage les courses au copain d'avant. Voilà. Du coup, ça marche pas trop.
Lui, les amis, il doit avoir de sacrées courbatures après son semi-marathon dimanche, qu'il a bouclé en 1h, 3 minutes et 28 secondes, soit devant le premier Kényan. À ce rythme-là, il pourrait être la grande surprise des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et bonjour, ouais. Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Grosse surprise.
La très très grosse surprise.
L'énorme surprise,
comme diraient les autres.
Cyril, les appis de sport, d'où ça sort?
Eh bien, faisons un retour dans le temps d'un peu plus de 40 ans. Je vous présente Polar. C'est le tout premier moniteur de fréquence cardiaque portable. Il a été créé en 1982, et à l'époque, pas de smartphone évidemment, les données étaient transférées vers un logiciel très rudimentaire. Pour votre culture générale, sachez que Polar existe toujours et qu'il fait figure de pionnier dans la mesure des performances des sportifs. Mais ce n'est pas une application au sens où on l'entend aujourd'hui avec Strava.
Et dans ce secteur, quelles sont celles qui vont alors défricher le terrain?
En fait, elles sont deux à revendiquer d'avoir été la première. Nike plus iPod, une app intégrée à l'iPod Nano, souvenez-vous. Elle permettait de suivre des courses grâce à un capteur qu'on portait sur soi. C'était en 2006. Et puis il y a Runkeeper, deux ans plus tard, encore une affaire de marque de sportswear, car elle est lancée par Asics. Et là, on passe un cap. Plus besoin de capteurs, l'appli permet de suivre une course grâce au GPS du téléphone. C'est elle qui a véritablement inspiré tout le secteur, et c'est donc elle qui a inspiré Strava. Strava, qui est l'œuvre de deux anciens rameurs de l'université de Harvard, Michael Horvath et Mark Gainey. Leur idée, redonner l'esprit de camaraderie et le sens de la compétition. Ils choisissent le nom de Strava pour leur application, en référence au mot suédois Strava, vous pardonnez de la prononciation, qui signifie fournir un effort et se battre. Strava, qui sera d'abord dédié aux cyclistes, avant de s'ouvrir aux autres disciplines, et de devenir plus qu'une appli de sport, mais aussi un véritable réseau social, avec ses côtés cool et ses travers. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de partager des pratiques sportives? Est-ce qu'on ne peut plus rien faire juste pour soi? Qu'est-ce que ces applications font de nos données? Pourquoi est-ce que Pierre Courade est devenu accro au Q-dose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Cyril, on est d'accord que ça, c'est un doux sasseur ancienne version.
Oui, oui, car on aurait dû faire cette émission la saison dernière, avant la pause de estivale, et je me suis posé la question de réécrire, mais Pierre Courade m'a convaincu de ne pas le faire, je le cite, les Lacarzouz Canal Historique apprécieront ce clin d'œil vintage, les voilà heureuses et heureux.
Ouais, évidemment, elles sont très heureuses, je les entends deux, applaudir au pied de Radio France. Merci Cyril. Cléoïna, petit point technique d'abord pour ceux qui n'auraient jamais eu Strava entre les mains, à quoi ça ressemble cette appli, comment ça marche?
Enfin, c'est une application comme un peu toutes les applications finalement. À la base, c'est une application de mobile de sport et d'activité physique. C'est pour ça qu'elle a été pensée à la base. Comme toutes les applications, on la télécharge tout simplement, on s'inscrit et après on a une interface. C'est assez. Je pense que c'est la force aussi de Strava, c'est que c'est une interface qui est assez simple. Une des premières choses qu'on va voir, c'est le bouton enregistrer, qui est vraiment le bouton en plein milieu. Donc on comprend tout de suite finalement que quand on veut commencer une activité physique, on a juste à appuyer sur ce bouton-là et après ça se fait de façon un peu magique, c'est-à-dire que le GPS nous traque, on suit une activité et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, c'est assez ludique finalement.
Alors pardon, moi j'ai pas Strava, donc j'ai une autre appli comme je le disais, mais j'imagine qu'il y a des options. Moi par exemple sur mon appli, si j'appuie sur démarrer, je fais un run libre, mais il y a des runs guidés avec une voix qui me parle pour me dire là il faut intensifier, là il faut réduire, si on vise 10, si on vise 15 km, enfin j'imagine que Strava propose des fonctionnalités comme ça ou c'est plus simple en fait?
Alors basiquement Strava finalement propose des... la fonction de base, c'est finalement démarrer une activité, quelle qu'elle soit.
Et après, pas forcément
de la course à pied, non, justement, Strava est connu principalement pour la course à pied et pour le vélo aussi. C'est vraiment les deux principales activités qui sont enregistrées sur l'application.
Pas le running, pardon?
Si, la course à pied et le running. Oui, tout à fait.
Mais c'était une bonne intervention, Manon.
Je confondais avec la marche à pied, excusez-moi. C'est
la
marche
course
à pied.
Mais aussi sur le... D'ailleurs, mais très grosse hype
de la randonnée.
Très grosse hype de la randonnée et du trail. Donc aussi, ça marche aussi. Mais effectivement, ouais, c'est principalement ces sports-là. Mais il y en a d'autres.
Petite différence peut-être, c'est que l'application, elle est aussi sur la montre. Je vois beaucoup de coureurs avec la montre. Donc on a l'application sur la montre et sur le portable.
Alors en fait, maintenant, la majeure partie des montres sont compatibles avec Strava. Et c'est aussi pour ça que c'est très fort. C'est qu'en fait, toutes nos données, donc toutes les données qu'on va enregistrer à partir du moment où la montre est linkée à Strava, toutes les données vont être sur Strava en fait. Donc c'est très pratique. On n'a pas besoin de partir avec le téléphone faire une activité. On a juste la montre, on active la montre et en fait après toutes les données seront, on pourra les retrouver sur l'application.
Et tous les gens qui ont Strava voient nos performances ou c'est juste nos amis?
Alors,
comme sur Copain d'abord.
Alors ça dépend quelle fonctionnalité vous souhaitez montrer ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez tout mettre en privé, vous pouvez
on
le faire.
On choisit.
On choisit, exactement. C'est-à-dire que les données sont uniquement pour vous et pour suivre vos performances. Par contre, vous pouvez aussi mettre votre profil en full public. Et là, à ce moment-là, l'univers peut voir vos performances.
Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Courir et surtout faire savoir qu'on court, c'est le plus important. Zoom cet après-midi sur l'appli préférée des runners Strava avec la journaliste Cléo Hénin. Cléo, 120 millions de personnes utilisent Strava à travers 190 pays aujourd'hui. C'est quoi le profil des utilisateurs de cette application ?
Alors, je crois même qu'on est à 135 millions maintenant. Je crois que ça progresse d'année en année. Je crois que les derniers chiffres sont à 135 millions. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, il y a énormément de profils variés sur Strava. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, la majeure partie des utilisateurs de Strava se situe quand même entre 25 et 40 ans. Les bons vieux millennials, on va dire. Mais globalement, en fait, toutes les tranches d'âge sont présentes et c'est assez mixte également, autant de femmes que d'hommes quasiment.
Quentin ?
Vous parlez de gamification quand vous parlez de Strava, de ludification aussi. Ça veut dire quoi, concrètement, sur l'application ?
En fait, c'est la gamification, la ludification, comme le mot l'indique, c'est le fait d'être ludique, en fait. C'est-à-dire qu'on va intégrer des fonctionnalités dans une application pour nous donner envie de revenir. En fait, c'est un peu du jeu. C'est-à-dire que le fait de donner des kudos, de pouvoir
expliquez-nous ce que sont les kudos, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est comme des petits likes.
Exactement, c'est littéralement ça. C'est le mot qu'a choisi Strava pour parler de likes. C'est vraiment, c'est exactement ça. C'est un peu un encouragement. Ils disent plus que vraiment un like. C'est vraiment encourager sur une performance, sur une sortie.
Quelqu'un poste ses résultats,
voilà.
et nous, ses amis, on lui met des coups d'ose.
Des coups d'ose, exactement.
Mais est-ce que c'est quand même... Enfin, on peut dire que c'est une appli d'ego aussi, Strava. Est-ce que le but, c'est pas de montrer qu'on performe plutôt que de vraiment performer ?
Je pense qu'il y a un peu de tout. Ça dépend vraiment de l'utilisation que souhaitent en faire les gens. Maintenant, effectivement, il y en a beaucoup qui critiquent... particulièrement Strava, parce que sur les réseaux sociaux, ça pullule maintenant. On voit tous nos potes, on a tous un pote à minima qui poste tous ses runs
clairement.
Sur Instagram. Voilà, donc en fait, c'est vrai que maintenant, comme on le voit beaucoup, on a l'impression que c'est aussi beaucoup du paraître. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent vraiment comme un carnet d'entraînement. Vraiment.
Personnel,
exactement. Et en même temps, je pense, et je trouve que finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais le fait aussi de montrer, ça nous permet de nous motiver, en fait, tout simplement. Ouais. Le fait de voir que ton pote te dit waouh, mais t'as fait 10 km ce week-end, c'est trop bien, moi j'ai grave envie de me mettre à la course à pied aussi. Et en fait, ça booste un peu l'ego, hein, forcément. Et je pense que finalement, ça nous met dans une démarche où on a envie de continuer. Donc, ça, là-dessus, en tout cas, je trouve que c'est pas
mal. C'est de la comparaison aussi, ça peut être un peu malsain d'être toujours comme ça.
Alors oui, ça je pense que par contre c'est aussi un des aspects...
Maintenant on cherche toutes les raisons pour ne pas s'inscrire sur Strava, visiblement.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est intéressant, parce c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que la comparaison c'est un vrai sujet aussi sur Strava, parce que on voit en fait ce que font les autres. Donc forcément, ça va très très vite de voir ce qu'a fait notre copine Julie à côté, qui s'est mise à courir en même temps que nous et qui court deux fois plus vite.
Donc, ça c'est rageant ça.
Bah,
moi je l'ai pas, Julie, je la dégage, je l'unfollow, voilà ce que je fais.
Mais vous avez complètement raison, il faut unfollow.
Il faut être compétitif. Je vais vous dire.
Mais si ça pousse les gens à sortir de chez eux, à faire du sport, est-ce que c'est pas le meilleur truc de santé publique qui soit arrivé de ces dernières années ?
Ah mais je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui essayent de diaboliser un petit peu ces applications, mais finalement, je pense qu'il y a un vrai sujet de santé publique sur la sédentarité aujourd'hui, et qu'en fait, si des applications comme ça nous permettent de nous mettre à la course à pied, juste faire une sortie par semaine déjà, c'est extraordinaire en fait. Donc, si ça nous permet de nous motiver, je trouve que c'est la meilleure chose qui soit arrivée finalement.
Pour l'instant, on parle beaucoup d'amateurs, on parle de nous. Est-ce qu'il y a des professionnels, des sportifs professionnels qui sont sur Strava ? Est-ce qu'eux aussi utilisent cette application ?
Tout à fait. Je crois que Strava estime à 3000 à peu près le nombre de sportifs professionnels sur la plateforme. Beaucoup de coureurs, beaucoup de cyclistes. Forcément, on l'a dit au début, hein, c'est vraiment les deux disciplines qui sont les plus présentes sur l'application. Mais oui, complètement. Je crois que d'ailleurs, le sportif le plus suivi sur l'application, ça doit être Tadej Pogacar.
Ah oui,
il vaut mieux pas se comparer.
Non.
On monte plus sur le vélo, là.
Non, je pense que c'est un petit peu risqué.
Je pense qu'en scooter, je vais moins vite que lui. C'est ça qui est fascinant quand même. Je pense que
dans si... Paris, c'est sûr.
Vous devriez tester.
Oui, je pourrais faire ça. Et on parlait de gamification. Il y a un truc marrant. J'ai découvert l'existence des segments. C'est quoi les segments sur Strava ?
Effectivement, oui. Les segments, c'est un petit peu tout le principe. C'est un petit peu tout le principe de l'application. En fait, c'est des portions de route ou deux sentiers sur lesquels on va pouvoir justement un petit peu se mettre en concurrence.
Et pourquoi ? Parce que c'est l'appli qui se dit là, il y a une longue ligne droite, c'est bien comme endroit, ou c'est d'autres coureurs qui sont passés avant ?
C'est les coureurs eux-mêmes qui peuvent créer des segments.
Ils créent des challenges en fait.
Oui, c'est un peu ça en fait.
Un peu comme Waze où on nous dit qu'il y a des flics de l'autre côté de la rue.
Alors, la comparaison est un peu.
Non, mais c'est un peu dans l'esprit de communauté, je veux dire, où les gens.
Alors, c'est coopératif et en même temps, c'est un peu compétitif quand même. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est d'être le. Ils appellent ça le King of the Mountain ou le Queen of the Mountain de ces segments-là.
D'accord.
Donc, voilà, ça va être la personne qui va faire ce segment le plus rapidement possible va avoir ce titre honorifique.
Et on va recevoir quoi ? Une petite médaille virtuelle ?
Une petite couronne ? Une petite couronne ?
Wow.
Oui, tout à fait.
Je vais m'inscrire sur Strava, je sens. Tout ça m'excite beaucoup.
Vous êtes un compétiteur, Mathieu.
Mais je suis un compétiteur, voilà. Je ne serais pas là si je n'étais pas content. J'ai dû en briser des carrières pour arriver là, tu sais, évidemment. Lui, des kilomètres qu'il en aura parcouru, souvent en marchant, mais parfois aussi en courant, tantôt pour échapper aux wesh qui traînent toujours autour du métro Rennes-Lac, mais aussi parfois pour forcer un passant récalcitrant à répondre à ses questions. Ouais. Quentin, dommage que vous n'ayez pas enregistré tout ça sur Strava, vous devez être à plus de 1000 kilomètres.
Oh, je pense. Je me pose sur un segment, justement, sur les quais à Paris, ces voies sur berge, qui, il faut le reconnaître, font le bonheur des piétons, mais aussi des runners. Cette jeune femme arrive devant
runners.
Cette jeune femme, donc en étude, elle arrive devant moi, les joues rouges, les mains posées sur le legging, basket fluo, bonjour.
Bonjour.
Un peu essoufflé.
Un peu. C'est mon premier fractionné depuis longtemps, donc là c'est un peu nul. Je suis pas parisienne, j'habite à Lyon, là je suis montrée voir des potes et ils travaillent, donc je suis allée courir. Mais je suis déjà venue courir ici sur les quais avec mes potes.
Nous discutons du mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Strava, c'est une appli où on partage ses perfs de sport. Moi je le connais que pour le run, mais il y a plein qui utilisent aussi pour la natation et d'autres trucs.
Ouais. Vous l'utilisez pour le run là ?
Oui, mais j'ai que mes potes parce que sinon c'est trop stressant, les gens ils mettent trop la presse, c'est chiant. Je sais pas, ils vont faire un run de 15 km et ils vont marquer petite séance.
J'avoue que ce poste, ça fait quand même bien le mec qui se la raconte. Je lui demande si Strava n'est pas aussi devenu une sorte d'appli de rencontre. Elle me dit qu'elle en entend parler en ce moment.
Mais il faudrait qu'ils mettent quelque chose, si par exemple on croise un coureur, on puisse avoir son Strava ou quoi. Non, mais je sais pas, qu'il y ait une option ou si on est sur Strava et qu'on active l'option, si on croise quelqu'un qui nous plaît, ça match.
Mais bon. Ah, ce serait un mix entre Appen et Strava.
Je pense. Mais je pense que ça va arriver. Franchement, ça m'étonnerait pas. Et j'avoue que croiser des beaux sportifs, ça peut être pas mal si on peut les trouver comme ça.
Ah vous, vous êtes... mais très bien, vous avez
raison. En vrai, pourquoi pas. Mais après, il faut juste activer l'option, pas que ça soit pour tout le monde.
Bon, je le note, merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Appen, sans qui il n'y aurait sans doute pas de deuxième ni de troisième Petit Noël, je glisse comme ça, les auditeurs ont le droit de savoir.
J'ai rencontré ma femme au Louvre, devant la Méduse.
Mais quel mytho.
On passe à notre deuxième champion. Un cuissard moulant, un t-shirt flashy, on peut lire le nom d'une course régionale à laquelle il a déjà participé. Quel est votre prénom ?
Mon prénom, c'est Jules.
Vous êtes en triathlon
Entre midi et deux, on profite de la pause... Du boulot pour aller courir un petit peu. Là, ça fait 1h18, 17 bornes.
Oh, 17 bornes ?
Ouais. Wow. Bah, il me reste encore 3-4 km, donc je vais en faire à peu près 20.
Ah bah, je vois qu'on n'a pas tous les mêmes pauses déj. Hein, Cyril ? Est-ce qu'il a Strava, notre Jules ?
Oui, évidemment. Évidemment. Comme tout coureur qui se respecte, je crois, aujourd'hui. C'est aussi pour suivre nos performances, mais aussi pour les montrer. Donc, c'est vrai qu'en plus, l'application s'est pas mal développée. Il y a de plus en plus de statistiques personnelles qui permettent de suivre un peu l'évolution de sa performance et de ses entraînements. Quoi.
Lesquelles ?
Ça va être le nombre de bornes qu'on fait à la semaine, le rythme cardiaque, les évolutions de prévision de course sur les temps que Strava nous... Parce que là, il y a maintenant l'IA qui a été intégrée dans l'application qui permet d'avoir des estimations de temps sur des distances, etc.
Ça a changé un truc, l'IA ?
Ouais, c'est pas mal. Quoi. Ça permet d'avoir des analyses en temps réel sur les performances qu'on fait. Quoi.
L'IA généralisée jusqu'ici. Il a remarqué aussi un truc, Jules.
Non, ce qui me fait souvent rire sur Strava, c'est ceux du coup qui accompagnent un peu leur sortie avec des petits commentaires. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a souvent qui mettent des commentaires pour justifier un peu le fait d'être allé moins vite, comme Blabla Run avec ma copine. Oh. Alors qu'on voit dans les stats qu'ils sont à 160 battements par minute, donc ils sont pas du tout.
C'est vrai que vous êtes allé observer.
C'est vrai.
Il y a un côté un peu voyeur.
Il y a un côté un peu voyeur, mais c'est vrai que toutes les stats apparaissent. C'est vrai que quand la sortie est publiée sur Strava, on a accès à toutes ces informations-là.
Le Blabla Run, quand Madame nous ralentit dans la performance.
Et donc lui, il est quand même vicieux parce qu'il est allé vérifier les VM de Rivo
qui était à 160. Voilà. Donc ça charbonnait. Je remercie Jules. Et je fais la connaissance d'Arthur qui s'étire juste à côté de moi. Il vient de faire un 8 km, mais il grimace quand je lui dis qu'on parle de Strava. Et vous, vous l'utilisez pas ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que déjà, je suis dans la data et donc et je suis dans le sport.
Vous êtes dans la data ? Vous travaillez dans la data ?
Dans la data et dans le sport. On peut très vite savoir où est-ce qu'on habite, nos habitudes, ce genre de choses. Déjà être conscient de l'information qu'on laisse et être OK avec le fait qu'on ne la contrôle plus en fait. On n'est plus maître de l'information qu'on a partagée quoi.
On a laissé une trace.
C'est ça.
Être conscient de la trace qu'on laisse, à l'image des gardes du corps du président Macron qu'on suivait partout sur le globe grâce à un outil aussi bête que Strava. Dernière rencontre, elle est au bout du roule, on dirait la Marianoche après un CAF. Cuisse à deux fessiers.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Safia.
Safia, vous êtes une sportive.
Non, j'essaye. Je débute à peine là.
Vous avez commencé quand ?
Il y a un mois. Strava. Tous les Parisiens ont Strava.
Tu penses que c'est un truc de Parisien ?
C'est un truc à la mode chez les Parisiens, ouais.
Safia me raconte ce qu'il se dit sur certains utilisateurs de l'appli.
Qu'il y a des gens, ils payaient des coureurs pour dire « Oui, courez avec mon compte, pendant ce temps-là, moi, je fais autre chose. »
Qu'est-ce que ça raconte de notre époque ?
On cherche tous les moyens possibles pour bien se cacher, mentir, qu'on se dit pas la vérité.
Et qu'on se ment à soi-même.
Ouais.
Sur les quais de Seine, entre sueur, appli et record fantôme, on finit par se demander si Strava mesure encore l'effort ou seulement l'ego.
Merci Quentin pour ce micro-trotte. Alors Cléo, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui demandent à d'autres de courir pour eux, comme on a pu le lire en préparant cette émission, sur Strava ? Ça me paraît
Il semblerait. En tout cas, il y a même des sites qui existent qui s'appellent Strava Jockey. Ouais. L'image est belle. Hein, quand
l'image
même,
est très belle.
On a vraiment l'impression
que
quelqu'un court sur son dos. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment.
Ouais, et le but, c'est quoi uniquement de...
En fait, on donne effectivement ses identifiants à quelqu'un d'autre qui va courir à notre place et qui, alors, on lui dit je veux faire 10 km à telle allure. Et puis, lui, il court, ou elle court à 10 km à telle allure.
On le paye. On paye cette personne.
Bien sûr.
Oui, parce que.
Bien évidemment,
c'est pas
pour
la noire.
Non,
oui.
Non, ouais. Les personnes sont payées pour faire ça, ouais, complètement.
C'est scandaleux.
Non, mais c'est fou. Manon.
J'avais lu aussi, on en a vaguement parlé dans le micro-trottoir, mais que les gens utilisaient aussi Strava pour se rencontrer comme application de dating.
Oui, alors effectivement, on avait fait un podcast d'ailleurs dans la tête d'un coureur un peu sur ce sujet. Et la génération Z particulièrement, ouais, en fait, utilise Strava pour envoyer des DM, mais de façon sur Strava plutôt que sur Instagram.
Mais pardon, on a une photo de profil sur Strava ? Genre, il y a des photos de profil comme sur Tinder ?
Oui, oui, alors on a une photo de profil et après, on peut également rajouter des photos sur nos sorties. Donc en fait, ouais, c'est le principe d'un réseau social. C'est-à-dire qu'on poste nos sorties. À côté, on peut également mettre des photos pour illustrer, mettre des petits commentaires. Et les gens peuvent également mettre des commentaires et peuvent envoyer des messages.
Et après, ils font des date running, du coup.
Bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, Manon ? Après tout, il faut vivre avec son temps.
Mais bien sûr, mais
c'est pas le moment où on est le plus beau. Si je veux.
Parfois, vous êtes bien moulé dans votre legging.
Vous n'avez pas trop vu en legging.
La transpiration,
c'est pas...
Au moins, on n'est pas surpris au réveil. Arthur bosse dans la data. Qu'est-ce qu'on risque en partageant ces données, en partageant ces courses à pied ? Moi, j'ai l'impression qu'on ne prend pas un gros risque. Et en fait, si.
Bah, ça reste des données. Et ce qui a fait à un moment donné, effectivement, un peu polémique, c'est qu'on a quand même le tracé de nos sorties. C'est-à-dire qu'on voit sur l'application par quelle rue on est passé. C'est là où ça a été un petit peu compliqué, particulièrement pour les femmes qui se sentent aussi en insécurité quand elles vont courir dans la rue. Les statistiques sont assez effrayantes. L'application, pour remédier à ça, assez rapidement, a flouté les départs et les arrivées.
C'est automatique ou c'est une option ?
C'est automatique maintenant, je crois. À l'époque, il fallait activer, on devait rentrer son adresse et ça floutait automatiquement les départs et les arrivées. Je crois que maintenant, ça se fait automatiquement. Mais oui, il y avait un vrai sujet là-dessus parce que potentiellement, on pouvait retrouver les domiciles des personnes. Mais il y a toujours cette problématique de on voit là où les gens passent et potentiellement, certaines personnes font souvent les mêmes trajets. Donc, voilà.
Mais du coup, ça veut dire que maintenant, on peut choisir de montrer le point par lequel on démarre et le point par lequel on s'arrête ?
C'est-à-dire, on peut montrer délibérément
sur notre trajet pour éviter justement que les gens voient où on habite ou quoi.
Oui, bah non, mais justement, c'est caché en fait. Mais on a quand même une zone, c'est ça qui est un petit peu. Voilà, on n'a pas le point de départ précis, mais on a quand même une zone. C'est-à-dire qu'on sait que ça se situe quelque part.
Vous, Manon, on sait que vous habitez dans le 12e, si vous voulez.
Non, juste, ça a été dit, tous nos auditeurs le savent.
Pas besoin de Strava.
Quentin. On avait fait une émission, vous en avez parlé, Mathieu, sur la bigorexie, la dépendance à l'exercice physique. Est-ce que l'application ne pousse pas aussi vers ce travers ?
Alors, C'est comme tout, je pense que ça dépend de l'usage que font les personnes de cette application-là. Je pense que comme tout phénomène et toute application, il peut y avoir un rapport un peu malsain à un moment donné et pousser à toujours plus. C'est vrai que un des témoignages tout à l'heure disait « on voit toutes les données ». C'est vrai, en fait, maintenant,
on
dans une sortie...
les données des autres.
Ah, mais on voit tout. On peut voir le rythme cardiaque, on peut voir... Si on cache pas tout, on montre tout, effectivement, on peut tout voir. C'est-à-dire le tracé, l'allure, le rythme cardiaque... les zones dans lesquelles on a couru, effectivement. Donc, en fait, on sait tout. Et ça donne envie, quand on a toutes ces informations, quand on a toutes ces datas aussi, d'aller faire mieux. Donc, forcément, il y a un petit peu ce goût de reviens-y en disant « je veux améliorer mes données, je veux toujours faire mieux ». Donc, effectivement, si on
c'est
a
addictif.
Un peu... Oui, tout à fait, ça peut être complètement addictif.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
L'heure du Zoom Zoom Test, un quiz dont l'idée m'est venue un midi chez Blériot, étonnamment, ouais. Où après un violent enchaînement terrine, burger, moelleux au chocolat, un grand chelem, comme on dit dans le jargon, Cyril m'a dit en mastiquant le spéculoos qui vient avec le café gourmand « Tu vois Mathieu, le problème avec Strava, c'est qu'on est plus libre de chez Mouvement, et la course à pied chez La Liberté. Quand je chauche mes own running, je veux être libre comme un cheval dans la steppe mongole. » Ce jour-là, je n'avais pas eu le cœur de lui rappeler qu'avant de cavaler comme un pur sang dans la steppe mongole, il faudrait déjà sortir les own running du carton. Ce quiz spécial danger du sport lui est dédié.
Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations.
Vous vivez en direct.
Et au mépris du danger.
Une erreur fatale.
Reculer.
Qui va coûter son poste à notre réalisatrice Alicia Mulo. Alicia Mulo, quand j'écris musique Star Trek Vintage, c'est la musique Star Trek Vintage. Et en aucun cas des paroles de Star Trek. Rien à foutre. Mais alors vraiment rien à foutre dans mon quiz sur le sport. Alors. Imaginons, scénario fou, que Cyril déballe enfin un jour sa paire de running suite à une réflexion acerbe de Madame Lacarrière lui faisant remarquer qu'il faisait le même chemin que Laurent Wrounac, mais en sens inverse. Imaginons encore plus
méchant.
Qu'il soit assidu à l'entraînement et finisse par s'inscrire au prochain marathon de Paris catégorie vétéran à barbe drue. Après 40 minutes de course, Cyril est contraint à l'abandon sur blessure, victime d'une douleur extrêmement redoutée des marathoniens. Laquelle ? Le runner's burn ? Le nipple bleeding ? Oh. Ou le Wright Leavitt Award.
La
brûlure du, ouais. Et vous?
Nipple bleeding.
Le nipple, c'est ce que c'est un nipple?
Oui, un téton, je vous remercie.
D'accord. Eh bien, c'est une bonne réponse, Manon Mariani. Oui, la course à pied, c'est très dangereux, surtout à partir du 30e kilomètre. Moi, c'est toujours là que j'ai un petit coup de moins bien. Autant avant, je galope, autant le 30e, je marque un peu le pas. Et c'est là qu'à force de frotter contre le t-shirt, le téton peut s'enflammer.
The
nipple bleeding. C'est extrêmement douloureux. Une seule solution, la vaseline. Toujours en avoir sur soi. Prendre le temps d'en appliquer une noix sur chaque mamelon avant de partir et surtout ne pas écouter ceux qui vous diront, comme Cyril quand il est pressé...
Pas le temps de lubrifier.
Si, on a toujours le temps.
Ça
toujours
va.
Le temps. En plus, c'est toujours très apprécié. Quentin, je sens que votre esprit s'égare ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop où, je ne veux pas savoir. Revenons vite à notre quiz spécial danger du sport. La course à pied est décidément un sport plus dangereux qu'on l'imagine. Vous connaissez bien, évidemment, la légende du marathon, Kelvin Kiptum, recordman de...
Je le connais bien. Ouais.
Kelvin Kiptum, le recordman de la distance en 2h et 35 secondes.
Question
en passant, parce que c'est tellement dingue que je n'y résiste pas. D'après vous, quand Kiptum a battu son record du monde du marathon à Chicago le 8 octobre 2023, c'était son 53e marathon, son 23e marathon ou son 3e marathon?
C.
B.
Pensez, Quentin, qu'un homme a battu le record du monde du marathon en faisant juste 3.
Ouais.
Alors que c'est une épreuve vraiment qui nécessite beaucoup. C'est une bonne réponse de Quentin Muley. C'était seulement son 3e marathon. C'est comme si nous, à notre 3e émission, on avait... Je trouve pas de comparaison, mais voilà quoi. Réussi à faire une émission. Personne ne saura s'il serait descendu en dessous des 2 heures pour son 4e marathon, un accident de voiture mortelle ayant stoppé brutalement sa carrière en février 2024.
C'est
un concurrent de moins pour Cyril. Oui, c'est vrai, c'est triste, c'est comme
c'est
ça.
C'est horrible cette histoire.
C'est terrible. Ce qui nous rappelle que les athlètes sont aussi des humains, comme ce malheureux James Kipkenboy. Ils ont tous des noms compliqués. Coureur kényan.
Commence que par Kip.
Qui s'est illustré à sa manière sur le marathon d'Athènes en 2007. Après vous, que lui est-il arrivé à ce Kipkenboy? Il s'est effondré au bout de seulement 1 km avant de se relever puis de se tromper de route et d'être renversé par un camion.
Mais c'est quoi ce zoom test?
Tout est vrai. Il s'est effondré à seulement 1 km de l'arrivée avant de se relever puis de se tromper de route et d'être percuté par un tramway. où il s'est effondré à mi-parcours avant de se relever et de repartir dans le mauvais sens sans s'en rendre compte.
Bah, j'espère pour... Non mais c'est... je vais dire C parce que vraiment c'est horrible.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Ah, B, oui,
oh, bonne réponse de Manon. C'était pas son jour à Kipkenboy. Malaise à 1 km de l'arrivée, l'ambulance arrive, mais il veut repartir, se gourde de chemin et là, paf, le tram. Je vous rassure, après quelques heures de coma, il était à nouveau sur pied, tout s'est bien terminé. Une capacité de récupération inouïe.
Il n'est pas décédé, c'est
qui n'est pas sans rappeler celle de Cyril à l'époque où il poussait de la fonte avec le patron des services secrets américains à Paris. Impressionné par la tonicité musculaire de Cyril, son pote, le patron des services secrets, décide de le tester pour voir s'il est digne d'intégrer l'unité d'élite du FBI, la Hostage Rescue Team. Il l'inscrit à la très sélective épreuve du Ferret Legging, sport pratiqué encore de nos jours de manière consentie, c'est important de le préciser, au Royaume-Uni. D'après vous, en quoi consiste ce sport, le Ferret Legging ? Courir avec un legging imbibé d'eau glacée ? Dévaler une pente en courant après une meule géante de cheddar ? Ou tenir le plus longtemps possible avec des furets dans le futal.
B. Elle est connue cette...
Oui, c'est, elle est tellement connue que c'était un piège. Et Manon, vous dites... essayez de dire autre chose que...
Manon, c'est fou ça.
Oh là 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 là. Quand la beauté du sport rencontre la beauté du monde animal. Ne sommes-nous pas en train de tutoyer les cimes du gai savoir ? Inspiré des techniques de braconnage du Yorkshire, le furet legging consiste pour le concurrent à attacher son pantalon aux chevilles avant de placer deux furets à l'intérieur et de bien serrer la ceinture pour empêcher les furets de s'échapper. Ça peut paraître un peu fou, voire con, mais c'est extrêmement sérieux. Les furets doivent avoir une dentition complète et non limée, ne pas être sous sédatifs et les concurrents n'ont pas le droit de porter des sous-vêtements afin que les bêtes puissent se déplacer librement d'une jambe à l'autre. Cyril participa à l'épreuve et respectera les commandements, mais désireux de plaire à la hiérarchie, il demandera 4 furets au lieu de 2. Résultat des courses, 4 mois de chaise de souffrance et de bétadine du côté de Cyril et de grosses pertes chez les furets. Défaite de la dignité et victoire de Manon Mariani, ce qui n'est pas étonnant sur un quiz consacré au sport.
Évidemment. Cyril me dit que j'avais déjà gagné ce même quiz la première fois.
C'est vrai, voilà. C'était pas tout à fait le même.
C'est surprenant.
Quand la course à pied devient une obsession, zoom cet après-midi sur le phénomène Strava, l'appli des runners avec nous, Cléo Hénin, journaliste animatrice du podcast Dans la tête d'un coureur. Cléo, est-ce que c'est Strava qui a rendu le running cool ou c'est parce que le running est devenu à la mode que Strava cartonne ? C'est dans quel sens que ça s'est fait ? Vous, par exemple, vous avez d'abord téléchargé Strava avant de vous mettre à la course ?
Effectivement, ouais, tout à fait. Après, je pense que c'est un phénomène de société un peu global. Donc les deux se sont portés l'un l'autre, mais je pense qu'effectivement, il y a une vraie... En fait, on remarque, et d'ailleurs, Strava a explosé juste après le Covid. Donc en fait, les gens avaient besoin de sortir, de prendre l'air, de se réactiver aussi physiquement.
Et peut-être de se comparer, parce qu'on était tout seul dans notre bulle, on ne savait pas...
Peut-être par extension, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y avait vraiment eu, il y a vraiment eu cette volonté de reconnecter aux gens, de ressortir, de refaire de l'activité physique, et en fait, tout ça a amené le phénomène qu'on connaît aujourd'hui.
J'ai vu que depuis un an, il n'y avait plus besoin d'un certificat médical pour participer à des courses, parce qu'il y a aussi cette folie des courses. Les Français ne font pas que courir comme ça le dimanche, il court aussi dans des compétitions. Ça a joué aussi sur le succès du running. Plus besoin de certificat médical, c'est pas une très bonne chose d'ailleurs.
Alors je sais pas si ça a joué sur le succès du running. En tout cas, oui, depuis le 1er septembre 2024, on n'est plus obligé de montrer un certificat médical pour participer à des courses outdoor. Maintenant, ils ont mis en place le PPS, le parcours prévention santé. Donc c'est des vidéos en fait hein, qu'on regarde sur notre ordinateur ou sur notre téléphone où on certifie sur l'honneur que voilà on est ok. Ce qui effectivement alors en fait, ça peut être une bonne chose parce que ça, je crois que ça fait suite à la loi sport du 2 mars 2022 qui voulait faciliter justement l'accès à l'activité physique. Alors effectivement, c'est beaucoup plus simple maintenant pour les gens de s'inscrire à des courses.
Après, mais c'est pas dangereux pour le. On ne sait pas qu'on a des problèmes de santé potentiellement de s'écrouler pendant.
Si on n'a pas diagnostiqué un souffle au cœur ou quelque chose.
Effectivement, c'est ça qui est un petit peu dangereux. D'ailleurs, les organisateurs de courses ont peur de ça. Ils ont peur d'avoir de plus en plus de malaises, de problèmes cardiovasculaires dans leurs courses. Donc bon, voilà, c'est un petit peu.
C'est pas le cas pour le moment, il n'y a pas d'études.
Il n'y a pas d'études qui ont été faites, en tout cas, en ce sens, mais effectivement, ça a été une des craintes.
Enfin, ils ont peur, mais ils encaissent, puisque tous les dossards pour le prochain marathon de Paris en 2026 se sont vendus en un temps record. Ouais. Le prix de l'inscription, c'est quand même de 130 à 170 euros. Comment vous expliquez cette folie, alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était réservé à une poignée d'initiés, quoi.
Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y a encore assez peu de temps, on pouvait acheter un dossard la veille de la course. Donc, ça a vraiment vraiment évolué. Maintenant, c'est parti en quelques jours. Ouais. Enfin, c'est vraiment, c'est démentiel. Je pense qu'encore une fois, c'est un phénomène et qui a été extrêmement accentué aussi par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un vrai phénomène en lien avec le running, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a beaucoup qui font des blagues en disant si à 30 ans, soit il y a ceux qui font des enfants qui se marient et il y a les autres qui courent des marathons. Mais finalement, c'est quand même assez vrai.
J'en connais qui font les deux.
Il y en a qui font les deux, de plus en plus.
Ou aucun.
Et, ça, c'est vrai aussi, Manon. Mais une question personnelle, Cléo, est-ce qu'il y a cette je parlais tout à l'heure du côté addictif de la course. Vous avez commencé, votre objectif, c'était un semi-marathon. Aujourd'hui, vous visez le marathon ou est-ce qu'on peut aussi savoir s'arrêter et dire c'est bien ?
Alors, je n'ai jamais fait de semi.
Ah, mais j'ai jamais fait encore.
Parce que je me suis blessée au pied.
Donc, ah, donc ça reste l'objectif.
Ça reste l'objectif. Non, maintenant, je me suis plutôt. Je préfère le trail. Donc, je me suis mise plutôt sur le trail. Et là, dans une semaine, je vais faire mon premier petit trail. Petit, voilà, comme quoi, on est encore un peu biaisé, mais trail de 10 km. Donc, non, comme quoi on peut aussi revenir de ça. Mais oui, non. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a vraiment un effet global de masse qui fait que maintenant, les gens, comme on le voit partout sur les réseaux sociaux, tout le monde fait des marathons. Et en fait, tout le monde veut en être. En fait, c'est un peu comme une espèce de club où on se dit, OK, bah, en fait, tout le monde fait des marathons. Moi aussi, je veux le faire.
C'est photogénique. On peut le poster très vite, bien sûr.
Je veux pas jouer les vieux cons, mais pour courir un tout petit peu, pense que faire un marathon, c'est tellement dur pour le corps que peut-être il ne faut pas en abuser. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas faits pour ça, ou il ne faut pas qu'ils poussent leur corps trop loin, peut-être aussi. Et cet objectif du marathon, il peut être aussi peut-être malsain pour une partie de la population.
Alors, je pense que dans tous les cas, il faut un avis médical en fonction de mon profil. Si on commence de zéro, qu'on n'a jamais couru, alors effectivement, peut-être que faire un marathon, ça va être un objectif un tout petit peu ambitieux dans un premier temps. Peut-être déjà se challenger sur un 5 km, un 10 km, ouais. Et surtout la progression, en fait. Parce que ça, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que faire un marathon, c'est facile.
Mais c'est ça.
Mais en fait, faire un marathon, c'est pas facile. Oui. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la régularité.
C'est une alimentation, voilà. Une hygiène de vie particulière. Voilà.
Bien sûr, oui, non, on fait pas. En fait, il y a des gens qui s'amusent à dire marathon sans préparation sur les réseaux sociaux.
Non.
Ne les écoutez pas.
Il y a un hashtag marathon sans préparation.
Bien sûr, il y a des gens, sur Strava qui postent en disant marathon sans préparation. Bien évidemment, c'est la chose à ne pas faire.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Que nous réserve votre pièce jointe, Manon ?
Et ben aujourd'hui, un artiste, il s'appelle Duncan McCabe, il a 32 ans, il est canadien, et comme des millions de personnes, il adore l'application Strava. Ce comptable vit à Toronto et s'est mis à courir pendant son temps libre, accompagné de l'application pour retracer son parcours. Comme beaucoup d'utilisateurs, il publie ensuite sa trajectoire, son temps, mais la différence, c'est qu'il ne cherche pas à battre des records ou à se faire mousser pour sa cadence. Lui, ce qu'il aime, c'est dessiner. Grâce à Strava, il transforme les rues de sa ville en toiles numériques. En fait, les trajets tracés de lignes rouges, il s'en sert pour créer des animaux ou des silhouettes qu'il publie ensuite sur TikTok. Pour ça, il y passe des mois. Il a accumulé plus de 1100 km de course à pied pour arriver à créer une animation image par image, comme une image en stop motion en fait, sauf que, à la place de la pâte à modeler, ce sont ses contours de trajets qui sont en train de changer. Il fait par exemple un petit dinosaure qui bouge, un poisson, un chien. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est assez impressionnant à voir. Sa vidéo qui a le plus marché a cumulé plus de 1,2 million de vues sur TikTok. On y voit un petit bonhomme, Stickman, qui virevolte sur de la musique. Résultat, Duncan McCabe devient viral. Mais une question revient quand même sans cesse. Comment est-ce qu'il a réussi à tracer des lignes droites en diagonale dans une ville en quadrillage ? Eh bien, il a répondu en commentaire, en fait, il a exploité une faille de Strava qui relie deux points, en fait, si l'utilisateur fait une pause. Et oui, pas de triche, juste de l'astuce et surtout quand même énormément d'endurance. Car pendant 10 mois, il s'est lancé tout seul dans cette aventure, par tous les temps, la pluie, etc. etc. Chacune de ses sorties est millimétrée, chaque virage pensé pour respecter une géométrie stricte, qu'aucun algorithme ne lui facilite, il le dit. Pour lui, la course, c'est juste un moyen de faire de l'art. Et grâce à ses animations, Duncan McCabe a l'air de s'être fait repérer par l'application Strava, évidemment. Sa dernière vidéo sur son compte TikTok tease une prochaine collaboration avec l'artiste runner. En même temps, ça serait un peu bête de s'en priver.
Merci Manon. Cléo, vous tracez des dessins, des formes quand vous courez sur Strava ? Vous n'en êtes pas là ?
Non, pas encore. J'essaie déjà de courir.
C'est déjà un premier pas. C'est ce que je fais aussi sur Copain d'avant.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Il fait partie de ceux qui ont fait le succès de l'application Strava. Depuis quelques mois, il n'a plus qu'une obsession.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile.
C'est justement le t-shirt court et le muscle bandé qu'il nous rejoint pour un petit carnet qu'il dédie aux deux personnes les plus importantes de sa vie, son mari et Théo de Lobadère, notre technicien du lundi, très sexy technicien. Pierre Courade, bienvenue de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur Strava en une minute chrono.
Une minute chrono, c'est ni plus ni moins que remontant sur le segment République Arts et Métiers, soit dit en passant.
Oh, allez.
On a parlé de Strava, l'appli préférée des runners. Elle permet non seulement d'enregistrer ses performances et son parcours, mais c'est aussi devenu un véritable réseau social avec un chat et des groupes dans lesquels on peut s'inscrire pour courir ensemble et pourquoi pas faire des rencontres. Il faut courir un minimum, j'essaie en revanche. Pour parler de Strava avec nous, la spécialiste de Strava en France, Cléo Hénin, journaliste sportive et podcasteuse. C'était elle, et personne d'autre qu'on voulait inviter pour parler de ce sujet. Autant dire qu'on lui a couru après. Cléo Hénin nous a expliqué qu'elle s'est inscrite... Cléo Hénin nous a expliqué qu'elle s'est inscrite sur Strava avant même d'avoir commencé à se mettre à la course. Pour elle, cette appli lui a donné un but. Elle est très vite devenue accro, au point de dire aujourd'hui que si sa course n'est pas enregistrée sur Strava, elle n'existe pas. Autre fonction qui rend les utilisateurs addicts, les kudos, des likes comme sur un quelconque réseau social. Ils permettent de féliciter un ami, de s'encourager. Ça rend l'appli ludique, mais ça flatte aussi l'ego. Certains entrent dans un engrenage et font courir quelqu'un d'autre à leur place. La tricherie est liée à la compétition. Je ne comprends toujours pas pourquoi Manon n'est pas encore sur Strava.
Vous, en revanche, Pierre, vous y êtes.
Absolument.
Ah, c'est vrai, le segment République Arts et Métiers.
Non, j'exagère un petit peu. Mais
jamais une minute à un métier en
mais
une minute.
Un
non, jamais.
C'est lui
à vélo,
le tricheur.
Peut-être, à vélo, effectivement.
À vélo donc, électrique, alors.
Je l'utilise pour les randos. Ça marche très bien aussi.
Ah, c'est vrai qu'il est très rando, le courant. Merci, Pierre. Et c'est maintenant au tour de GC qui, lui, en a marre de toutes ces applications.
Bonjour à tous. Alors, comment Strava ? Eh ben moi, Strava très bien, hein, merci beaucoup. Voilà, une intro qui fait la grève. Comme la personne chargée de trouver des thèmes pertinents pour cette émission. Hein, mais elle est carrément portée disparue, je crois. Hein, comme le rythme dans la chronique de Pierre. Pardon, ça c'est une minute, Pierre. C'est pas possible, on s'est endormi 6 fois. Pierre. Non mais franchement, Strava, l'application des gens qui courent. C'est vrai qu'il se passe rien d'autre dans le monde. Hein, parlons compide et ampoule. Franchement, non mais sans compter, pardon, hein, que l'application a explosé en 2020. Voilà, il y a 5 ans. Hein. On faisait cette émission il y a 3 ans, on était déjà des gros ringards. Je vous le dis.
Et justement, là, ça devient vintage.
Oui, donc, puis, c'est quoi, du coup, la semaine prochaine ? WhatsApp ? Ah, parce que le thème de Cyril n'aura pas été accepté ? La Wi-Fi ? Oh. Je suis sûr que c'est la courade qui a choisi le thème. Hein. Il a dû faire 2 foulées un dimanche pour suivre un mec qui n'avait rien demandé. C'est sûr, maintenant, il pense que ça intéresse toute la France. Et enregistre pas tes trajets, Pierre, hein, parce que ça fait juste des preuves pour la police. D'ailleurs, message à tous les utilisateurs de cette application de l'enfer. Hein, je vous le dis une bonne fois pour toutes dans les yeux, on s'en carre l'oignon de vos parcours. Voilà, courir à 6 km/h a jamais rendu quelqu'un intéressant. Voilà, hein, ça serait si faire 2 fois le tour des buts de Chaumont vous achetait une personnalité. Hein, regardez Quentin, franchement. Oh. Mais non, mais il arpente tous les jours toutes les rues de Paris, la direction pense encore que c'est notre stagiaire de seconde. Alors qu'on n'arrête pas de lui dire, mais non Adèle, c'est Quentin, il est qu'en 3e. Lui. En 2024, presque 3 millions de Français ont participé à un marathon dont 78% étaient des mecs qui avaient la flemme de s'occuper de leurs gosses ce week-end-là. Et les 22% restants des mecs qui pensaient que 42 km suffiraient pour leur faire oublier leur vie de merde. D'ailleurs, selon les chiffres, les gens courent de plus en plus, hein, mais apparemment pas après moi. Je rappelle que je suis célibataire. Voilà, hein, donc je laisse les auditeurs intéressés contacter le standard. Hein. Voilà, vous emmerdez pas avec vos chronos Strava, hein, seront suffisants vos revenus fonciers. Pierre, pose ton téléphone, c'est gênant. Je t'ai bloqué depuis longtemps. Les gens courent de plus en plus parce qu'apparemment, il n'y a plus besoin d'un mot du médecin pour faire un marathon. Il suffit d'une déclaration sur l'honneur qui atteste que tu fais une crise de la quarantaine. On a donc perdu cette année Jérôme, hein, qui disait pourtant « c'est pas parce que je fume 3 paquets par jour que je peux pas passer la ligne d'arrivée ». Et il n'avait pas tort, Jérôme, hein, puisqu'il est en effet arrivé très vite aux urgences. Et un peu plus tard dans la soirée, au paradis. Ça, c'est ce qu'il pensait. Hein, mais évidemment, après avoir posté 27 parcours Strava en 4 jours, c'est en enfer que Jérôme a atterri. La table juste à côté de celle de la courade. Aussi appelée la table des gros forceurs. 8 millions de personnes affirment courir au moins une fois par semaine en France. Ce qui représente 7,9 millions de personnes qui mentent. Voilà, je rappelle que se dépêcher pour choper le dernier métro, ça fait pas de vous un sportif. Hein, juste une grosse pince qui a pas envie de raquer le taxi. Moi, je cours toute la semaine après des beuteux. Bon, c'est pas pour autant, Manon, que je me prends. C'est pas pour autant que je me prends pour Marie-Josée Pérec. Voilà, hein, ni que je raconte que je fais de l'équitation. N'importe quoi. Faut arrêter de croire qu'on est un athlète. Hein, je rappelle que toute personne qui monte 3 marches, fait de la tachycardie. Voilà. Surtout qu'en 2003, Kyo posait déjà la question. Faudra-t-il que je cours? Voilà, et au vu, je suis trop content, c'est mon premier extrait musical.
Et
au vu
des et peut-être le dernier.
Et au vu des derniers tubes du groupe, la réponse est claire. Hein. Non, rien ne sert de courir après le succès quand il a décidé de partir. Oh. Voilà, il n'y a qu'à regarder notre rédacteur en chef. Hein. Bah, pardon, mais se raccrocher au Lacar News pour exister. Allez, je vous laisse. Moi aussi, je dois aller courir après une augmentation.
Et bah, tu peux toujours courir. Merci, du coup. Merci quand même, GC, en tournée partout en France dès janvier 2026. Toutes les infos sont évidemment sur icigc.com. Oui. Merci, Cléo Hénin, de nous avoir permis de tout comprendre à Strava. Je rappelle votre podcast Championne du Monde qui s'intéresse aux femmes dans le sport et aussi dans la tête d'un coureur, le podcast préféré de Cyril. Merci encore. Et comme dirait Gérard Rolls, vive le sport.
C'est moderne.
Il faut finir par une touche de modernité. Ça, parce que GC nous a dit qu'on était un gars. Mais c'est Gérard Rolls. Zoom, zoom, zen.